Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo au programme. Ce soir, on parle de logement étudiant, c'est les vacances d'été et donc qui dit vacances d'été dit galère pour trouver un logement à la rentrée à venir. On en parle avec Sarah Biche de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou, la FEDESA, et Adrien Mallet, vice-président étudiant à l'Université d'Angers, également membre de la FEDESA puisqu'il en est le trésorier. On accueillera également deuxième partie d'émission Hermine pour son portrait de la semaine et enfin notre traditionnelle pause poétique. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti. Sarah Biche et Adrien Mallet, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais vous laisser bien parler proche du micro. Vous êtes deux représentants de la FEDESA, mais plus généralement des étudiants dans leur ensemble, évidemment. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le site internet dédié au logement étudiant, Loc Service, a tiré des conclusions assez terribles sur le logement à Angers. Pour une offre de logement, donc une annonce postée, c'est près de 4,5 demandes en moyenne, ce qui fait d'Angers la ville la plus, avec le plus fort taux de demandes en France. Comment est-ce que vous, la FEDESA, vous saisissez de ces chiffres et qu'est-ce que ça vous fait ?
Ces chiffres ne nous étonnent pas déjà parce que la situation du logement à Angers et la tension, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une situation qui est épineuse depuis déjà plusieurs années. Je dirais même depuis 2017, et on alerte depuis longtemps. Et cette tension, elle est sur tout le public, hein, pas que étudiants, sur la ville d'Angers. Les loyers et l'augmentation touchent tout le monde, mais sur les étudiants, c'est encore plus compliqué, je dirais, parce que c'est un public qui est plus précaire que le public, la population générale, avec aussi des demandes de logement un peu plus variables sur le type de bien, sur le loyer qui peut être mis dedans, sur les dates auxquelles les loyers sont demandés. Et c'est pas très étonnant quand on voit que le loyer, c'est pour les étudiants la première source de dépenses et que ça représente plus de 50% des ressources, là où pour le reste de la population, c'est pas le cas.
C'est un tiers normalement.
Ouais, voilà.
Et Angers, un groupe de l'opposition de la mairie d'Angers, a publié un communiqué de presse il y a à peu près pile un mois. Il dénonce une carence structurelle de logements à Angers. Comment est-ce qu'on solutionne ça quand on est étudiant ?
On passe par des alternatives.
Adrien Mallet.
On passe par des alternatives en termes de logement, par exemple avec les habitats partagés. Mais
les habitats partagés, c'est les colocations ?
Les colocations, oui. Par exemple, je pense à un toit pour tous. Mais pas que, on compte aussi sur les collectivités quand même pour faire un effort sur les constructions en termes de logement.
Qu'est-ce que vous attendez de la part des collectivités ?
Une hausse du nombre de logements construits, parce que ce soit dans le privé comme dans le public. Donc, quand j'entends public, je parle évidemment du CROUS. Le nombre d'augmentation de logements est insuffisante comparé à la croissance du nombre d'étudiants sur le sol angevin.
Oui, en termes généraux, on voit qu'on est loin de ce qui est annoncé depuis longtemps en termes de construction de logements. On se souvient du plan 60 000, on doit être à peu près à 35 000 logements actuellement. Et au-delà de juste la construction, il y a aussi un travail à faire sur l'accès au logement plus généralement, sur les aides au logement, les APL, les ALS, les ALF, sur la communication qui n'est pas du tout efficace et efficiente sur le sujet actuellement, qui donne un fort taux de non-recours, notamment chez les étudiants. Un travail sur la garantie visale qui n'est pas forcément bien acceptée par les propriétaires et les agences. C'est plein de choses qui s'accumulent, qui font que ça augmente une précarité qui est multidimensionnelle et que le logement, on le sait, c'est un vecteur d'autonomie et d'émancipation pour la jeunesse. Et du coup, ne pas en avoir, et la situation qui a Angers, c'est un frein vers l'accès à l'enseignement supérieur et l'accès juste à l'insertion professionnelle.
Est-ce que vous travaillez avec la municipalité ou le CROUS pour trouver des solutions conjointes ?
Alors, il y a un travail qui est engagé parce que, donc, déjà, toutes ces positions, évidemment, on les porte lors de rendez-vous avec des députés, avec les municipalités, etc. Et on a notamment un dispositif, nous-mêmes, de logement temporaire, qui s'appelle Un lit pour la nuit, qu'on a lancé en 2020. Et dans ce cadre-là, on siège dans une cellule de veille du logement, avec notamment la ville, le CROUS, l'université, Action Logement et HTH, enfin David d'Angers, pour parler toutes les semaines entre fin août et fin octobre de la situation du logement.
Justement, alors cette solution là, c'est ce que je considère comme une solution palliative. Un lit pour la nuit, ça permet à des étudiants de se mettre en relation avec des angevins et des angevines pour trouver une solution d'hébergement d'urgence en attendant de trouver un logement. Ça va être reconduit l'année prochaine.
Oui, tout à fait.
Comment on fait pour en bénéficier ?
Alors, le dispositif va un peu changer normalement, mais ça se passera sur notre site internet. Il y aura tout ce qu'il faut comme information. Moi, fait2a.fr, rubrique un lit pour la nuit. C'est toujours le même principe. On fait un appel à la solidarité des angevins et des angevines pour proposer une chambre de libre chez eux sur la période de la rentrée pour quelques jours ou quelques semaines. Les étudiants auront les infos sur les réseaux sociaux. Voilà, on est en train de professionnaliser le système et on sortira tout ça un petit peu plus tard dans l'été.
Comment est-ce que ça va se passer, si on peut avoir quelques infos ?
Alors, on est en train de travailler sur le développement d'une application mobile qui permettrait de faciliter notre travail de mise en relation derrière, et où les gens pourront directement s'inscrire, soit pour héberger, soit pour être hébergé.
Et comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous apportez comme garantie aux personnes qui accueillent que l'étudiant va forcément trouver un logement et qu'il ne va pas rester toute l'année sur le canapé ?
Ouais, c'est la grosse difficulté de transférer les gens du logement temporaire vers du logement pérenne. Nous, on note les dates où les hébergeurs sont disponibles. Et quand on voit que la date approche, si l'étudiant ne trouve pas de logement, on refait tout le cycle, on lui trouve un autre hébergeur. Et nous, en fait, on a tout un travail d'accompagnement social en fait, avec tous les étudiants qui sont bénéficiaires. Si nous, on ne peut pas leur répondre, on les redirige évidemment vers le CROUS ou vers des assistants, assistantes sociales qui sont formés sur le sujet. Et on les accompagne avec tous les outils qu'on peut avoir, notamment le public international, vers des logements pérennes.
Est-ce que c'est votre rôle de faire ça ? Vous, à la FED2A ?
Théoriquement, c'est quand même une compétence qui n'est pas censée être du domaine de l'associatif, mais véritablement plus de la municipalité. Le logement, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'associations qui ont pour mission le logement, alors que la mission était initialement celle de la municipalité. Donc non, théoriquement.
On se substitue clairement aux collectivités territoriales, mais c'est une double problématique parce que d'un côté, on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas que ça devienne une habitude et que ça devienne notre rôle, mais en même temps, on ne peut pas se résoudre à dire on ne fait rien, puisque visiblement, si nous on ne le fait pas, personne ne le fait.
Ça a été voté en conseil municipal hier, d'ailleurs, la subvention allouée. Donc la ville assume très clairement le fait d'avoir cette solution palliative proposée par vous et pas par elle, de toute évidence.
Alors le discours, bon, évidemment, selon les élus, est différent entre la majorité et la minorité. Il y a ce discours que ce n'est pas notre rôle, et il y a ce discours... qu'en même temps, ce n'est pas au pouvoir public de tout faire et que c'est bien d'encourager le tissu associatif qui saisit de ces thématiques.
Et la subvention est véritablement est axée sur le développement de l'application.
Ah d'accord, pas sur l'action en elle-même, c'est vraiment sur le développement numérique.
Oui.
Angers tout numérique, on y revient. Quel était le bilan de l'année passée de ce projet Un lit pour la nuit ? Combien d'étudiants et d'étudiantes vous avez accueillis ?
On a hébergé 100 personnes entre fin août et à peu près fin octobre, sachant qu'on a dû fermer le 7 septembre pendant 2 semaines parce qu'on avait trop de demandes et qu'il fallait qu'on traite déjà les gens qu'on avait. Donc on n'a pas été au max du potentiel, on va dire, mais du coup, malheureusement, ça a eu beaucoup de succès.
Au-delà du marché saturé, c'est évidemment le prix des loyers qui ne cesse d'augmenter. Le prix moyen pour un studio à Angers, selon le site Loc Service, c'est 416 € en moyenne. Alors il faut avoir des garants de plus en plus solides, et si on n'en a pas, on se retrouve vraiment en difficulté. Est-ce que vous, c'est aussi des difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'étudiant et étudiante ? La question à Hermine également, qui est dans le studio avec nous, une bénévole à Radio Campus Angers. Mais je vous laisse répondre, Sarah Bichet.
Personnellement, j'ai compris la tension sur les logements en étant en CROUS. J'ai eu la chance, du coup, de pouvoir bénéficier des logements CROUS, mais je savais très bien que c'était extrêmement temporaire, puisque de nombreux étudiants qui étaient dans les mêmes cités que moi n'avaient pas les possibilités de pouvoir renouveler leur logement et se reposer la question tous les ans du « est-ce que j'aurai un logement l'année prochaine, puisque mon logement est précaire ?»
Ouais, moi je vois la tension maintenant plutôt sur l'évolution. Quand je suis arrivée à Angers il y a 3 ans, 4 ans, j'avais un logement de 30 mètres carrés, enfin un T1 de 30 mètres carrés, et je le payais 350 € par mois. Donc avec les appels, ça me revenait vraiment à 150 €. Quand j'ai quitté le logement, j'ai vu le prix auquel il a été remis sur le marché, et c'est pas la même chose. Moi j'ai eu de la chance, j'ai changé de logement sur une période qui n'était pas en tension, enfin pas sur une période estivale, mais...
Hermine, est-ce que tu as été étudiante à Angers ?
Alors moi, j'étais étudiante à Angers déjà il y a un petit moment.
Ah, alors excuse-moi, le micro ne fonctionne pas, je vais te laisser passer sur le micro d'à côté. Alors, on switch de micro, c'est pas grave.
Ça fonctionne.
Et ça fonctionne.
Mais moi, j'ai été étudiante à Angers pendant 2 ans, mais il y a quelques années aussi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était plus facile de trouver un logement et les coûts étaient quand même plus accessibles qu'aujourd'hui. Mais
C'est vrai que c'est des problématiques auxquelles les étudiants sont confrontés de manière générale. Est-ce que vous êtes aussi en relation avec des personnes qui peuvent se porter garantes à la place des garants? En gros, est-ce que si jamais nos parents ne peuvent pas se porter garant, quelles sont les solutions possibles pour les étudiants?
Du coup, de base, pour le CROUS, on a cette chance que la garantie visale soit acceptée, ce qui permet de pallier à l'absence de soutien parental possible pour certains étudiants, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les hébergeurs, et c'est une des choses sur lesquelles on doit se battre, puisque la garantie visale est quand même une des garanties les plus sûres, puisqu'elle est garantie par l'État, et c'est une des choses qui n'est pas encore acquise.
En 2023, la ville annonce 510 logements qui seront livrés sur Saint-Serge, dont 2 résidences privées construites par les groupes Eiffage et Bouygues. Est-ce que vous avez des nouvelles? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vraiment, à la rentrée 2023, donc pas cette rentrée-là, mais celle d'après, on aura ces 510 nouveaux logements?
Pour les voir régulièrement en passant devant, les bâtiments ont l'air relativement achevés. Donc je pense que pour 2023, s'il n'y a pas de problème de matériaux, ce qui est quand même un cas relativement récurrent, théoriquement, les bâtiments devraient être prêts pour 2023.
Le fait que ce soit des résidences privées, qu'est-ce que ça vous inspire et que ce ne soit pas des logements CROUS?
Moi, je trouve que c'est un peu problématique comme décision parce que, alors certes, on ne va pas se plaindre qu'il y ait de nouveaux logements, tant mieux, mais ça veut dire que ça ne répond pas du tout aux besoins de tous les publics étudiants. Ça répond à un public étudiant qui a les moyens de se payer un logement dans une résidence privée, qui n'ont pas forcément des premiers loyers qui sont très abordables. Et encore une fois, en fait, on répond juste à ce truc de se dire que, OK, il n'y a pas assez de logements, mais on ne prend pas la situation dans sa globalité, qui est de pourquoi on ne trouve pas de logement. Il y a parce qu'il n'y en a pas en nombre, mais aussi parce que juste, ils ne sont pas abordables, parce que la précarité, comme on en a parlé ces 2-3 dernières années, non-stop.
La ville annonce de manière générale 1495 logements qui sont en projet sur 3 ans, 2024, 2025 et 2026, répartis sur plusieurs quartiers, dont 600 gérés par le CROUS à Belbeil. C'est un début, mais vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on rentre dans le studio, que ça ne suit pas la courbe de croissance de la demande de manière générale.
Il y a plusieurs raisons à cela. C'est quand même qu'il y a une implantation d'écoles qui est de plus en plus importante sur le territoire angevin, notamment d'écoles privées. Et que la municipalité n'a pas forcément les moyens de pouvoir contraindre à la création ou non de nouvelles écoles privées sur le territoire. Mais chacune de ces écoles accentue un peu plus la tension sur les logements.
Il faudrait limiter le nombre d'écoles plutôt que d'augmenter le nombre de logements?
Alors, limiter le nombre d'écoles serait totalement futile. C'est le nombre de personnes dans ces écoles qui est important.
Et après, voilà, le but, c'est évidemment pas de restreindre l'accès à l'enseignement supérieur. C'est justement de dire qu'il faut arriver à avoir des politiques publiques qui suivent la courbe. Il faut qu'il y ait une articulation entre les deux, en tout cas. Ce qui est visiblement ce qui fait défaut, en fait, sur la ville, c'est qu'on a cette politique d'attractivité de la ville, ce rayonnement qu'on essaie d'avoir sur l'enseignement supérieur, ces nouvelles écoles. On entend régulièrement la ville et les établissements se vanter de leur parcours, etc. Mais par contre, on n'est pas capable derrière d'offrir une qualité de vie digne aux étudiants qui justement veulent profiter de ces parcours-là.
La ville a même annoncé que cette problématique pourrait venir en partie du taux de réussite au bac. Est-ce que c'est des choses qui sont entendables pour vous?
Alors d'une, c'est pas entendable, et de deux, si mes souvenirs sont bons, pour le dernier millésime, la réussite au bac est en baisse.
Est-ce qu'on va s'en réjouir? Ça, c'est terrible d'entendre ça quand on est étudiant, qu'on se donne à fond et que finalement le problème qu'on nous renvoie, c'est vous réussissez trop et on ne peut pas vous loger.
C'est ça, c'est que encore une fois, on remet la charge de la faute sur les personnes qui ne sont pas les personnes concernées. Enfin, on met les étudiants dans une situation qui fait qu'ils ont une affectation, donc c'est qu'on les accepte quelque part et que c'est leur droit d'avoir accès à leurs études et qu'ils ne peuvent pas et qu'ils vont des fois jusqu'à refuser de continuer leurs études parce qu'il n'y a pas de logement et en fait c'est juste pas entendable et c'est pas possible. Et comme on disait dès le départ, le logement, en plus, c'est une grosse partie aussi de ce qu'est l'autonomie. C'est quelque chose qui rentre en fait dans le parcours de vie et c'est pas normal de devoir faire une croix sur ça. C'est un frein finalement à l'insertion en fait sociale, tout simplement.
Merci beaucoup à tous les deux, Sarah Bichet, Mathéo, et finalement Matone et Adrien Mallet, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, tous les deux représentants de la FEDESA, la Fédération étudiante des associations de l'Anjou, et également Adrien, tu es vice-président étudiant à l'Université d'Angers. Tout de suite, on fait une petite pause musicale sur Radio Campus Angers. On écoute un morceau de Naman qui s'appelle « Time is to rebel ». Il est exactement 18h19 sur Radio Campus Angers et c'est l'heure de la chronique d'Hermine. Salut Hermine.
Salut Hugo.
Aujourd'hui, tu nous emmènes découvrir une boutique pas comme les autres.
Exactement. Peut-être êtes-vous déjà passé devant cette devanture fraîche et accueillante. Elle se trouve sur une petite place, comme on en trouve dans toutes les villes et villages. L'église et ses fidèles, le PMU et ses sympathiques habitués, la boulangerie, l'odeur du pain dont on ne se lasse pas, les épiceries, la pharmacie, une boucherie, un salon de coiffure. Au milieu de ces commerces qui se font face paisiblement, un flot de voitures, de vélos, de passants, un rythme établi, parfois bousculé par les engins de chantier et les groupes d'ouvriers, occupés à rénover un trottoir ou à dérouler des câbles immenses. Mais ce n'est jamais que passager. La devanture dont je vous parle, c'est celle que fleurissent depuis des années Françoise et Dominique. Mais lui, tout le monde l'appelle Dom, à moins d'être intimidé.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette boutique? Et puis, qu'est-ce qu'ils y vendent, en fait?
Françoise et Dom, ils sont fleuristes. Ils sont fleuristes et bien plus que cela. Dans leur boutique, entourés d'une talentueuse équipe, ils composent avec soin des bouquets colorés et délicats. Le goût est précis, les harmonies radieuses, les formes ciselées. Ils assemblent chaque jour les volutes des tiges, les noms des fleurs, les teintes des pétales. Ils mêlent à ces créations la lumière du dehors, la générosité du dedans, la transparence des vases et la rondeur des céramiques. Dans l'air imprégné de parfums de l'arrière-boutique, appliquée et silencieuse, ils offrent aux végétaux un volume et un charme supplémentaires. Comme des compositeurs penchés sur leur partition. Essayez, regardez, recommencez, attendre, recommencez encore. Françoise et Dom ont une esthétique sûre. Leur travail est exigeant et minutieux, car on ne plaisante pas avec la beauté, aussi éphémère soit-elle. Ils sont généreux, accueillants, attentifs surtout, car l'amitié se soigne comme une fleur. Ils servent à leurs clients de la joie en bouquet, du réconfort en bouture, de l'amour en bottes, soigneusement emballées dans du papier craft. Mais nul besoin d'être un connaisseur pour franchir le seuil. Ici, être fleuriste, ça signifie avant tout semer le beau dans la simplicité du quotidien. Une simple fleur devient essentielle lorsque le visiteur a soif de couleurs et de créativité.
Et qui sont ces fleuristes alors?
Elle, c'est Françoise, élégante dans son tablier noir aux poches garnies de ciseaux et de sécateurs. Regard tendre et attentif derrière ses lunettes. Dom, lui, porte des pots, pousse des palettes et extirpe d'une camionnette toutes sortes de merveilles bigarrées. Ensemble, ils imaginent la vitrine et disposent les plantes qui accueillent les passants jusque sur le trottoir. Dans cet étal, chaque jour renouvelé, Dom ajoute quelques bouquets de malice, un humour subtil et chaleureux. Derrière le plan de travail jonché de brassées de fleurs, Françoise s'efforce de rendre palpable une certaine douceur que l'on appelle délicatesse.
Mais en fait, finalement, ce qu'ils aiment, c'est la rencontre. Les fleurs, c'est finalement un prétexte.
Exactement. L'air du dehors s'engouffre facilement dans la boutique, apportant avec lui clients, voisins et amis. Les fleurs, autant que leurs propriétaires, invitent à l'échange. Si rien n'est calculé, la joie, elle, se mesure. Elle est jaune comme les mimosas à la fin de l'hiver, large comme les pétales d'une pivoine, puissante comme l'odeur du jasmin. Leur fond de commerce, c'est le beau. Le beau qui réjouit, apaise, témoigne, console et guérit. La beauté qui s'offre, passe de main en main, se répand dans le secret des maisons. Voilà en définitive l'âme que Françoise et Dom ont su donner à cette boutique. Ils sont fleuristes, mais ils sont aussi mari et femme, et cultivent avec un même souci l'harmonie familiale. Finalement, une famille, c'est comme un bouquet, non? Des fleurs uniques qui se complètent et s'ajoutent mutuellement un certain éclat. Les tiges bien serrées dans un même vase, les corolles orientées vers des horizons variés. Et lorsqu'on regarde l'ensemble, on se surprend parfois à être ému.
Merci beaucoup, Hermine, pour ce magnifique portrait. Et puis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Tout de suite, c'est l'heure de notre pause poétique sur Radio Campus Angers et on écoute un texte lu par l'association Éclat.
Laurent Godet, qui est romancier et dramaturge, qui a publié plusieurs pièces de théâtre et des romans également, dont La mort du roi de Sangor, qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2002 et le prix des libraires en 2003. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Soleil des Scorta, qui est un roman qui rappelle aussi un petit peu celui de Camus, la nouvelle de Camus, Nos Atipaza, puisqu'on évoque la chaleur, la mer et également la vengeance. La chaleur du soleil semblait fendre la terre. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les oliviers. Tout était immobile. Le parfum des collines s'était évanoui. La pierre gémissait de chaleur. Le mois d'août pesait sur le massif du Gargano, avec l'assurance d'un seigneur. Il était impossible de croire qu'en ces terres, un jour, il avait pu pleuvoir. Que de l'eau ait irrigué les champs et abreuvé les oliviers. Impossible de croire qu'une vie animale ou végétale ait pu trouver, sous ce ciel sec, de quoi se nourrir. Il était 2 heures de l'après-midi, et la terre était condamnée à brûler. Sur un chemin de poussière, un âne avançait lentement. Il suivait chaque courbe de la route avec résignation. Rien ne venait à bout de son obstination, ni l'air brûlant qu'il respirait, ni les rocailles pointues sur lesquelles ses sabots s'abîmaient. Il avançait, et son cavalier semblait une ombre condamnée à un châtiment antique. L'homme ne bougeait pas, hébété de chaleur, laissant à sa monture le soin de les porter tous deux au bout de cette route. La bête s'acquittait de sa tâche avec une volonté sourde qui défiait le jour. Lentement, mètre après mètre, sans avoir la force de presser jamais le pas, l'âne engloutissait les kilomètres, et le cavalier murmurait entre ses dents des mots qui s'évaporaient dans la chaleur. « Rien ne viendra à bout de moi. Le soleil peut bien tuer tous les lézards des collines. Je tiendrai. Il y a trop longtemps que j'attends. La terre peut siffler et mes cheveux s'enflammer. Je suis en route et j'irai jusqu'au bout. » Les heures passèrent ainsi, dans une fournaise qui abolissait les couleurs. Enfin, au détour d'un virage, la mer fut en vue. « Nous voilà au bout du monde, » pensa l'homme. « Je rêve depuis 15 ans à cet instant. » La mer était là, comme une flaque immobile qui ne servait qu'à réfléchir la puissance du soleil. Le chemin n'avait traversé aucun hameau, croisé aucune autre route. Il s'enfonçait toujours plus avant dans les terres. L'apparition de cette mer immobile, brillante de chaleur, imposait la certitude que le chemin ne menait nulle part. Mais l'âne continuait. Il était prêt à s'enfoncer dans les eaux, de ce même pas lent et décidé si son maître le lui demandait. Le cavalier ne bougeait pas. Un vertige l'avait saisi. Il s'était peut-être trompé. À perte de vue, il n'y avait que collines et mer enchevêtrées. « J'ai pris la mauvaise route, » pensa-t-il. « Je devrais déjà percevoir le village, à moins qu'il n'ait reculé. » « Oui. » Il a dû sentir ma venue et a reculé jusque dans la mer pour que je ne l'atteigne pas. Je plongeais dans les flots, mais je ne céderai pas. Jusqu'au bout, j'avance et je veux ma vengeance. L'âne atteignit le sommet de ce qui semblait être la dernière colline du monde. C'est alors qu'ils virent Monte Puccio. L'homme sourit. Le village se ferait au regard dans sa totalité. Un petit village blanc, deux maisons serrées les unes contre les autres, sur un haut promontoire qui dominait le calme profond des eaux. Cette présence humaine, dans un paysage si désertique, dut sembler bien comique à l'âne. Mais il ne rit pas et continua sa route. Lorsqu'il atteignit les premières maisons du village, l'heure murmura « Si un seul d'entre eux est là et m'empêche de passer, je l'écrase du poing !» Il observait avec minutie chaque coin de rue, mais il se rassura rapidement. Il avait fait le bon choix. À 7 heures de l'après-midi, le village était plongé dans la mort. Les rues étaient désertes, les volets fermés, les chiens même s'étaient volatilisés. C'était l'heure de la sieste, et la terre aurait pu trembler, personne ne se serait aventuré dehors. Une légende courait dans le village qu'à 7 heures, un jour, un homme remonté un peu tard des champs avait traversé la place centrale. Le temps qu'il atteigne l'ombre des maisons, le soleil l'avait rendu fou, comme si les rayons lui avaient brûlé le crâne. Tout le monde, à Monte Puccio, croyait en cette histoire. La place était petite, mais à 7 heures, tenter de la traverser, c'était se condamner à mort.
Un texte lu par l'association Éclat, et on continue notre pause poétique avec une performance de Marine Robledo dans le cadre de son cursus d'art plastique à l'Université catholique de l'Ouest. Elle était accompagnée par Charlotte Hubert, sa professeure.
Analyse avant accumule auxiliaire, achat alerte aurait attaqué accent et attaque. Bien bien bel ami, baisse budget. Besoin Brégel, baisse BFM TV. Chef, ce comme choix colle crédité curieux capital. Certains cinquièmes, contexte compétence, complique. Classique challenge, campagne, campagne conviction se critique coude à coude. Ces cartes ciblées contre conflit, Candidature, campagne, craignent choses comme un congrès. Déboire d'ailleurs, défense doctrinaire, durée de député déposée. Depuis déjà demi-heure, dedans, devant, dans dossier. Depuis, dont d'autant difficiles débats, depuis dévissé d'autres défections, dans désormais dans droite. Dans dégâts, deux de début, dernière débusquée.
Une performance dadaïste enregistrée dans les locaux de Radio Campus Angers. C'est déjà la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Évidemment, un grand merci à Étienne à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès demain à bord de notre embarcation favorite. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.